quitter la salle et nous allons accueillir Gilles Cayette pour un temps d'échange. Donc j'en profite pour vous rappeler qu'en tant que public, vous avez la possibilité de décerner un prix pour votre film favori dans cette compétition des films internationaux de plus de 40 minutes. Et pour ça, vous n'avez qu'à remplir les bulletins qu'on vous distribue à l'entrée de la salle et à les remettre dans l'urne transparente qui se situe juste en face. Voilà, le jury est en train de sortir. Merci. Donc Gilles Cayette, bienvenue à Douai.
Merci.
Merci d'être venu rencontrer le public du FIGRA. Vous êtes un réalisateur, mais vous avez beaucoup, beaucoup de casquettes. Vous avez travaillé en télévision, vous avez été monteur, chef monteur. Enfin, vous avez multiplié les postes de la chaîne de fabrication d'un film. Donc, vous êtes assez expérimenté. On reviendra un petit peu sur ça. Ce film-là, La diplomatie du vaccin, il est intéressant parce que la vaccination, on en a entendu beaucoup parler pendant cette pandémie, les pros, les anti, les bénéfices, les risques. Et vous, vous nous en parlez à travers les enjeux géopolitiques. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi vous avez soulevé cet enjeu-là ?
Ben, d'abord, bonjour à tous, merci d'être là. Parce que moi, je ne suis pas scientifique, donc je n'avais pas envie de raconter les mérites respectifs d'un vaccin ou d'un autre. J'y connais rien. Le Pfizer, le Sinopharm, je ne sais pas s'ils sont meilleurs. Enfin, souvenez-vous, on avait des discussions de comptoir à l'infini sur les mérites comparés des uns et des autres. Et moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et en plus, je ne suis pas spécialement anti-vaccin non plus. Donc, je me disais, le vaccin, à quoi ça sert ? Ça sert à éventuellement à protéger les populations. Ne parlons pas du vaccin Covid, le vaccin de manière générale. Et là, il y avait une telle urgence qu'on s'est bien rendu compte que les pays qui produisaient le vaccin l'utilisaient pour faire de la diplomatie, pour faire de l'influence aux pays où elles en promettaient la livraison. Promettre, c'est un mot important parce que il y a des pays qui ont beaucoup promis et qui n'ont pas délivré, comme je le montre dans le film. Il y a des pays qui ont jamais promis, mais qui ont beaucoup délivré aussi, comme la Chine. Et il y a des pays qui ont soi-disant beaucoup exporté, mais simplement aux gens qui pouvaient payer et non pas aux pays qui ne pouvaient pas payer. Donc voilà, pour résumer. Hein, c'est assez... Donc voilà, ça me semblait intéressant aussi de, quelque part, de montrer la duplicité de l'Europe. Qui a eu un discours extrêmement près du cœur en disant nous exportons vers les pays les plus pauvres. Et en fait, quand on rentre vraiment dans la façon dont ils ont travaillé, dont la Commission européenne a travaillé, d'abord, elle a réservé la moitié de la production des vaccins en Europe pour les Européens, pour les pays de l'Union. Donc vous avez vu que même un tout petit pays totalement dépendant de l'Europe comme San Marino, mais vraiment un tout petit pays, hein, c'est grand comme Douai, hein, à peu près, ne pouvait pas se fournir auprès de l'Union alors qu'il y avait quoi, 70 000 doses à fournir, ce qui n'était pas le bout du monde. Donc l'égoïsme a fonctionné à plein, ça c'était une première chose. Donc laissant la porte ouverte aux concurrents de l'Union, aux concurrents politiques de l'Union, la Russie, à l'époque il n'y avait pas encore la guerre. Donc c'est vrai que le film est très ancré dans cette période avant la guerre en Ukraine, hein. Donc il faut le voir vraiment avec ces yeux-là, il faut se reporter il y a un an, et où la vision qu'on avait de la Russie n'était pas très positive, mais on n'en était pas au point d'aujourd'hui, évidemment. Donc ça, c'était cette idée que l'Union européenne ne mentait pas, effectivement, elle a exporté l'autre moitié de cette production, énormément de doses. À l'époque du film, c'était 700 millions. Aujourd'hui, on est sans doute à plus d'un milliard. Mais que, en fait, sur ce milliard, on n'en réservait que 100 millions à la facilité COVAX dont tout le monde a entendu parler et dont on disait, mais je ne comprends pas, ils ne livrent pas. Bah oui, ils ne livrent pas parce qu'ils ont pas, parce que l'Europe ne leur donne pas de doses. Ils servent 3 milliards de personnes et ils n'ont que 100 millions de doses de la part de l'Union européenne. Donc voilà, cette géographie-là, cette géopolitique, il me semblait intéressant, tout en écartant littéralement la problématique de l'efficacité des vaccins, de la qualité des vaccins, qui moi m'intéressait pas du tout. Enfin, m'intéresse pour moi-même, éventuellement, égoïstement, mais pas pour le film en tous les cas. Donc voilà, c'était ça l'idée de raconter cette vision-là. Là, évidemment, elle est très ancrée dans le temps, je le rappelle, hein, évidemment, depuis les enjeux du Covid ont laissé la place aux enjeux de la guerre, c'est ce qui sont. Voilà.
Bien juste dans le... Je vous ai parlé bien dans le micro. Alors, l'intérêt aussi du Parole de reporter, c'est que le public rencontre un réalisateur, une réalisatrice, et donc peut évidemment l'interroger, discuter sur son film. Donc, on a un micro dans la salle. Si des personnes ont envie d'intervenir, c'est le moment de commencer à se manifester pour qu'on puisse vous faire parvenir le micro. Et vous avez expliqué du coup le contexte et pourquoi vous êtes rentré dans ce film par cet enjeu-là. Ce film est ancré dans une période bien précise. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un peu des éléments aussi de contexte de votre travail? À quel moment vous avez démarré cette enquête? Combien de temps elle vous a pris? Et est-ce qu'il vous a semblé difficile à démêler? Parce que finalement, pour nous, quand on le regarde, ça paraît assez simple, assez limpide. J'imagine que vous êtes un petit peu frotté le cerveau.
Je pense qu'on est la dernière équipe documentaire à avoir tourné à Moscou, puisqu'on a tourné fin août et que les manœuvres autour de l'Ukraine ont commencé fin octobre et que la Russie ne délivrait plus de visa pour des équipes de tournage occidentales à partir de l'automne. Donc on a eu la chance, enfin la chance. On a eu la possibilité d'aller tourner à Moscou et d'interviewer le gouvernement russe. Une des particularités du film qui était assez complexe, c'est qu'en fait, les oppositions dans les pays ne sont pas du tout, comment dire, n'ont pas la main sur la vaccination, sur le Covid, sur l'achat des doses. Donc, quel que soit, je dirais, ce qu'on pense des gouvernements, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est à eux qu'il faut parler parce que c'était eux qui géraient la crise. Qu'ils achètent ou qu'ils se fassent promettre des doses. Enfin, en tous les cas, c'était les gouvernements. Donc voilà, c'était compliqué pour ça. Voilà, la complexité, elle était là. C'était d'aller voir les gouvernements, d'aller voir les ministres, parce que c'était à eux qu'il fallait parler, c'était à eux qu'il fallait se confronter pour raconter cette histoire. Donc ça a bien marché en Russie. Ça a été très, très compliqué d'aller en Russie, vraiment très complexe. On y est parvenu. Ça, c'était. Pour nous, vachement bien. C'était aussi une manière d'expliquer comment s'était créé ce vaccin, parce que malgré tout, si c'est pas un film scientifique, il y a quand même un certain nombre de choses de contexte qu'il fallait comprendre, comment ce vaccin s'était construit. Bon, bah, si le Spoutnik, comment dire, est à l'identique des autres vaccins, même ARN, vous avez bien compris qu'en 2 mois, ils avaient le vaccin, quoi, entre la découverte du virus. En janvier et fin février, le premier sérum qu'il faut évidemment perfectionner, mais grosso modo, en 2 mois, ils ont fabriqué un vaccin. Ça va très très vite. Et donc les autres vaccins, c'est à l'identique, le Sinopharm, l'AstraZeneca. Alors les ARN sont encore un peu différents, mais ces vaccins-là ont été faits très très vite. C'est pour ça qu'on les a annoncés si vite. Et c'est pour ça que Poutine a pu s'en servir très très vite comme un argument de diplomatie parce qu'il a été le premier à l'annoncer. C'est vrai qu'après il a fallu le tester, machin, machin. Bon, être sûr que ça tue personne, c'est important quand même. Et donc de pouvoir l'utiliser comme d'un véritable levier diplomatique au même titre que le gaz, le pétrole, l'armement. Enfin voilà. Donc ça c'était important. La Serbie, ça a été plus compliqué. Le gouvernement a d'abord accepté, puis finalement refusé de nous parler. D'où le fait qu'on ait interrogé l'ancien président, qui a un regard évidemment oppositionnel sur le gouvernement en place, mais plutôt assez sympa avec les Chinois. Enfin bon, c'est un homme complexe, on va dire. Et le Sénégal a été plutôt accueillant. Ça a été compliqué, mais ça s'est bien passé. L'Union européenne, ça a été très compliqué. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, dès qu'on les confronte un peu, ils parlent de sang marin comme une petite chose. Enfin, pour les gens de sang marin, c'est quand même étrange d'être considéré comme une petite chose. Bah oui, c'est effectivement, en termes de superficie, c'est pas très grand, mais c'est un pays. Aussi petit soit-il, ça reste un pays. Et d'être traité comme ça, ils l'ont assez mal pris, à vrai dire. Voilà. Des questions?
Mais est-ce que dans la fourniture des vaccins aux pays sous-développés par l'Union européenne, comment est-ce que les décisions étaient prises au niveau de l'Union européenne? Est-ce qu'il fallait encore l'assentiment de tous les membres?
Non. Non, alors, non, ça s'est fait sous la forme d'une espèce de coopérative dans laquelle les pays individuellement ont contribué, dans laquelle l'Union européenne, la Commission a contribué. Donc, c'était une espèce d'appel de fonds, si vous voulez, pour pouvoir acheter des vaccins auprès des labos. Voilà comment ça s'est passé. Donc, cette espèce de zoom que vous avez vu à un moment où on voit tous les chefs de gouvernement défiler les uns derrière les autres. C'était un nombre, c'était, ils faisaient des espèces de réunions d'appels de fonds et chacun y allait de son petit 10 millions, 20 millions, et que je te mets 100 millions, enfin pas 100 millions. Enfin, voilà, COVAX, donc la facilité mondiale, qui était plus ou moins parrainée par l'OMS, a réuni beaucoup d'argent. Enfin, ils n'avaient pas trop de problèmes de financement, mais comme je le raconte dans le film, le temps que l'argent remonte, le temps qu'ils aient l'argent, en fait, tous les pays occidentaux avaient déjà signé leur contrat de fourniture avec les labos. Donc, quand ils sont arrivés avec l'argent, c'est pour ça que je demande à la responsable de COVAX si on pouvait acheter les doses à crédit. En attendant d'avoir l'argent, on réserve quand même. On vous paiera, on aura l'argent. Non, non, ça, c'était pas possible. Donc, il a fallu qu'ils aient l'argent. Et quand ils ont eu l'argent, eh ben, il n'y avait plus de doses possibles disponibles en Europe. Et donc, il a fallu qu'ils s'adressent à l'Inde. Et au moment où le variant Delta a attaqué l'Inde de front, et que l'Inde a pris la décision donc de fermer ses frontières à l'exportation des vaccins. Et donc, COVAX s'est retrouvé avec très très peu de doses, d'où l'échec de COVAX, dont on ne peut pas véritablement le rendre responsable, puisque ce n'est pas eux qui produisaient, ils ne faisaient qu'acheter. Mais sauf qu'il n'y avait rien à acheter, puisqu'on avait déjà tout capté. Voilà, c'était ça le principe.
Vous parliez de Saint-Marin. Est-ce que ça a été la même chose pour le Liechtenstein et les autres petits États, comme Andorre?
On peut imaginer que ça a été la même chose. En fait, pour Saint-Marin, donc il y a eu cette panique dont ils parlent très bien, et donc ils se sont adressés aux Russes. Andorre a été fournie par l'Espagne, ça s'est mieux passé. La France n'a rien donné à Andorre. Le Liechtenstein s'est débrouillé tout seul, ils ont attendu en fait, ils ont été patients et ils ont subi le Covid de plein fouet comme tout le monde hein, à cette époque-là. Ils ont attendu que Pfizer les fournisse, donc ça a mis, ils les avaient achetés, donc ça a mis, si San Marino a commencé à se vacciner en février, on peut dire que c'était au plus fort, hein, là, février 2021. Hein, donc là, franchement, on prenait cher, tous autant qu'on était. Hein, ils ont dû attendre avril-mai, quoi. Donc ils ont vraiment attendu, quoi. Voilà. Ils les ont eus au bout du compte. Hein, et aujourd'hui, si on se place aujourd'hui, si on ne parle pas de la guerre en Ukraine, mais si on parle que d'aujourd'hui, aujourd'hui, il n'y a plus de problème d'accès au vaccin. En 2021, le monde a fabriqué 11 milliards de doses. En 2022, le monde fabriquera 25 milliards de doses. Il n'y a plus de problème d'accès aux produits. Donc, je dirais que les enjeux diplomatiques se sont déplacés ailleurs. Bon, depuis, il y a la guerre en Ukraine, c'est encore un autre sujet. Et donc, c'est vrai que les enjeux de diplomatie du vaccin ne peuvent plus être vus comme ils l'ont été. C'est vraiment un moment particulier. Je pense qu'il laissera des traces, hein, au-delà de la guerre en Ukraine. Ça laissera des traces, peut-être pas pour les Russes, mais je pense que les Chinois, eux, qui ont continué leur politique de petits pas et de conquête, je dirais, à de basse intensité, pour eux, ça a été très, très, très efficace.
Merci Gilles Cayette. Peut-être une dernière question pour conclure en 1 minute. Votre prochain projet, vous avez travaillé sur la diplomatie du vaccin, vous avez travaillé sur le sport, sur l'aéronautique. Bon, vous avez balayé beaucoup de sujets. Est-ce que vous voulez nous dire juste un mot sur votre prochain film?
Le prochain projet revient sur une terre qu'on a visitée rapidement dans ce film-là. Je reviens sur les Balkans et je reconstitue la traque d'un criminel de guerre que peu de gens ont oublié, qui s'appelle Radovan Karadžić. Et donc je vais raconter la traque de 13 ans qui a amené à son arrestation. Voilà. C'est long.
Merci beaucoup Gilles Cayette d'être venu au FIGRA. Merci pour votre film. Vous avez la possibilité de voter pour ce film en mettant un bulletin dans l'urne transparente à la sortie de la salle. Et si vous voulez prolonger les échanges, sachez que les réalisateurs sont présents dans le festival et peuvent continuer d'échanger avec vous en dehors des salles. Prochaine projection ici, c'est à 15h55 pour celles et ceux qui veulent rester avec nous. Et sinon, je vous souhaite une bonne continuation dans ce festival. Merci.